Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers confrères, chers fidèles, nous venons d'entendre le célèbre récit de deux guérisons, celle du lépreux et celle, on ne peut plus célèbre, du serviteur du centurion. Deux hommes différents, deux maladies différentes et deux miracles différents que notre Seigneur accomplit, accompagnés de quelques phrases bien consolantes, comme des récompenses face à la foi constatée chez ces deux hommes. « Va te montrer au prêtre », dit-il d'abord au lépreux. « Allez se montrer au prêtre, ainsi en est-il selon la loi de Moïse. » Et nous pourrions nous demander ce que le prêtre vient faire là-dedans, dans une histoire de lèpre, maladie très grave, peut-être incurable à notre époque. C'est plutôt d'un médecin dont notre malade aurait besoin. Le lévite ne doit-il pas tenir une fonction proprement religieuse, à faire des prières dans le temple et à y brûler de l'encens, plutôt que de jouer les infirmiers? Après tout, chacun son office. Eh bien non, il s'agit bien du prêtre, et remettons les choses dans leur contexte. N'oublions pas que la lèpre était considérée comme une maladie spirituelle, en plus d'être une maladie d'ordre physique. La lèpre, grand malheur, était signe d'impureté non seulement physique, mais spirituelle. C'était une maladie qui révélait l'état de l'âme. À cette époque, être lépreux était non seulement un motif d'exclusion sociale, mais aussi une humiliation morale. Dans le Lévitique, le fameux livre de l'Ancien Testament qui prescrit les lois morales et religieuses chez les Juifs, il revient au prêtre de constater la lèpre d'une personne ou l'impureté d'un objet avec un rituel très précis. Par exemple, si un linge ou un objet est taché d'une plaie de lèpre, le prêtre doit soigner cette plaie et la recouvrir pendant 7 jours. 7 jours, voyez les symboles. Et au bout de 7 jours, si la plaie s'avère plus importante, plus étendue, le prêtre doit brûler l'objet car il est impur. De même, toujours dans le Lévitique, les personnes atteintes de cette maladie, mises à l'écart, doivent à leur passage crier qu'elles sont impures pour signaler leur lèpre. Voilà quelques prescriptions de la loi mosaïque sur la lèpre. Des prescriptions qui nous surprendront peut-être, mais qui au moins nous rappelleront que le corps et l'âme sont liés, que la maladie corporelle et la maladie spirituelle peuvent avoir des raisons communes. En fait, l'un ne va pas sans l'autre. Quoi qu'il en soit, notre Seigneur, qui manifeste sa toute-puissance, qui montre qu'il est Dieu, conclut son miracle, si l'on peut dire, en exigeant du lépreux guéri qu'il aille se montrer au prêtre. Pourtant, il est Dieu. Il est supérieur à Moïse et institue une nouvelle loi supérieure à celle de Moïse. Mais il demande tout de même une telle attestation. Se montrer au prêtre une fois guéri de la lèpre, c'est la loi. C'est encore la loi en vigueur, ce qui montre bien que la nouvelle loi viendra accomplir l'ancienne, l'accomplir et non l'abolir. Alors, chose admirable, notre Seigneur s'y plie. Il se plie à l'institution religieuse de l'époque, aussi imparfaite soit-elle. Durant le temps de Noël, mes frères, nous avons vu que Saint Joseph s'est plié à la loi civile en allant jusqu'à Bethléem pour se faire recenser. Rappelons-nous les textes de Noël, c'était il y a peu. Eh bien, Jésus se plie à la loi religieuse de son temps. Il a même été circoncis. La Sainte Famille a obéi aux lois religieuses, aux lois mosaïques. En somme, ils rendent à Moïse ce qui est à Moïse, comme à César ce qui est à César, à Hérode ce qui est à Hérode, ce qui ne veut pas dire qu'il faille approuver la tyrannie de ce dernier. Alors que Dieu est au-dessus de ses lois et au-dessus de ses propres lois, il pratique l'obéissance dans son incarnation. C'est une constatation qui nous fera réfléchir sur la valeur de l'institution, la valeur de la loi de notre temps. Nous, chrétiens, dans une société non chrétienne, catholiques de l'an 2018. Que cet exemple nous serve. À nous, catholiques, qui parfois, il est vrai, trouvons des prétextes pour ne pas obéir, pour ne pas respecter les institutions, qu'elles soient civiles ou ecclésiales d'ailleurs, clamant qu'elles sont mauvaises et les rejetant toutes en bloc, prétextant que notre pays n'est pas chrétien et que nous sommes dirigés par des gens malfaisants. Oh, notre société, de toute façon, on est dans une société anticatholique, donc les lois sont mauvaises. Attention, pas toutes. À nous de faire la part des choses. Et l'argument de la paranoïa va parfois nourrir notre indiscipline. Énorme danger qui vire à l'hypocrisie. Mais pour être un bon citoyen, il ne suffit pas d'être catholique pratiquant, qui plus est tradit. Ne mélangeons pas tout. Le Seigneur a su discerner dans les lois de son temps le bon grain de l'ivraie. Il est de notre ressort de faire de même, de reconnaître les vraies lois des fausses, bien sûr, et de garder l'humilité de la discipline. Mais ne pas vivre comme si toutes les lois étaient mauvaises, en s'abstenant de toute loi, tout en s'affirmant en même temps homme de principes, de valeurs et de convictions. Parce que nous sommes catholiques, et hélas minoritaires, nous ne sommes pas exemptés de certaines lois. De grâce qu'à notre tour, nous ne soyons pas contaminés par la lèpre du « on fait ce qu'on veut », ce qui serait un comble pour les hommes de tradition et de valeur que nous prétendons être. Pour en revenir à l'Évangile, pour ce qui est de notre centurion, qui est-il ? Pourquoi vient-il à la rencontre du Seigneur ? Est-ce un païen à l'origine ? C'est bien possible et c'est même certain. Là aussi, le Seigneur a affaire à un conquérant et le considère tel qu'il est. Il ne lui dit pas de quitter l'armée, même l'armée romaine. Il le laisse à son devoir d'État, sans intervenir aucunement de façon politique. Ainsi, l'intervention du Seigneur n'est pas une intervention politique ni militaire, c'est bel et bien une intervention surnaturelle, un miracle. Et il conclut son miracle, « Va, qu'il te soit fait comme tu as cru ». Jésus le laisse partir, il le laisse trouver son serviteur désormais guéri, en l'exauçant tout en respectant son humanité, son identité de centurion romain. Il n'en profite pas pour aller contre l'armée romaine, pour blâmer cet envahisseur, ni lui refuser ses secours divins. Il l'accueille, il l'écoute, puis il l'exauce. Ce qui serait évidemment un scandale, un de plus, pour les hommes de son peuple, les Juifs, qui le trouveraient en train de parler avec l'ennemi. Pour les purs, les cathares de l'époque, le Seigneur passe facilement pour un traître. À proximité d'un lépreux, puis d'un centurion romain, comme il va manger chez les pécheurs, parler avec une Samaritaine et des Samaritains. C'est l'occasion d'approfondir une fois notre réflexion et nous abstenir d'une vision binaire. La loi du tout ou rien qui consiste à croire que parler avec un adversaire, c'est déjà trahir. Certes, ce centurion, en train de se convertir, est un officier d'une armée conquérante. C'est un fait. Mais encore une fois, ne mélangeons pas tout. Singulièrement, centurion ou non, c'est un homme qui approche le Christ. C'est un homme qui passe du paganisme au christianisme. Et le Seigneur, opérant un miracle, est bien au-dessus de cette géopolitique, si l'on peut dire. Il regarde la foi de cet homme, car cet homme, racheté par lui, a le droit à la conversion. Mes frères, devant Dieu, laissons un peu tomber les étiquettes. Un lépreux, c'est une âme. Un centurion, c'est une âme. L'évangélisation exige alors de prendre le monde actuel tel qu'il est et nos contemporains tels qu'ils sont afin de contribuer à leur conversion. C'est l'idée que nous pouvons retenir. Ne pas confondre dialogue et lâcheté, ne pas confondre compromis et trahison, mais bien considérer en réaliste le milieu qui nous entoure. Répondre au mal par le bien, voilà le but à atteindre. Dans notre société malade, nous avons des plaies à guérir, que le Seigneur intervienne donc à travers nous pour répandre le bien autour de nous et que ces âmes que nous rencontrerons, lépreux ou centurions, trouvent ou retrouvent la foi. Mes frères, l'heure est à la rechristianisation, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.